Vous écoutez Résonance sur les ondes d'Univers 99.9. Pour cette édition, nous allons à Aidé-Bazouges rencontrer Mika, qui est comédien et metteur en scène pour la compagnie Le Puits qui parle. C'est tout de suite dans Résonance, vous écoutez Univers. Je suis ici à Aidé-Bazouges. Pour discuter avec Mika, bonjour, pour discuter avec Mika, qui est comédien et metteur en scène, de la compagnie Le Puits qui parle, dans laquelle vous intervenez. Est-ce que, donc la première question est de savoir, est-ce que vous pourriez tout simplement nous présenter cette compagnie du Puits qui parle, nous parler notamment de sa genèse et du lieu, des lieux où elle se propose.
Alors moi je suis au sein de la compagnie, je suis comédien, je suis par ailleurs aussi metteur en scène, mais voilà, je suis cofondateur de cette compagnie avec d'autres amis, Valérie, Sabrina, Sophie notamment, et je m'en occupe aussi quoi dans la vie quotidienne, mais sur le plateau je suis comédien. Alors la compagnie, elle a été créée il y a une douzaine d'années, autour de l'idée de faire un théâtre populaire, médiatique et vivant. Alors,
qu'est-ce que cela signifie ?
Eh ben, populaire, ça veut dire qu'on essaye de faire des spectacles qui, s'adressent à tous, qui sont pas des spectacles à niche, quoi, qui peuvent concerner à la fois les jeunes comme les plus grands. Médiatique, c'est-à-dire que on essaie de redonner, à notre petite échelle, le pouvoir politique, quoi, au théâtre tel qu'il a été pensé à l'origine, comme un espace de parole possible pour parler de notre monde et pour éventuellement le faire, l'améliorer. Et puis vivant, parce que voilà, le théâtre est un art du présent, de la relation au spectateur. Et on est là pour créer des vraies choses, quoi. On essaie de... Enfin, nous, ce qui nous plaît, c'est pas de faire des œuvres artistiques, quoi, mais c'est plutôt de faire de chaque représentation et de chaque moment partagé une œuvre en tant que telle, parce qu'il se passe quelque chose de vrai entre nous, quoi. Les acteurs, sur le plateau, et puis avec le public.
Et donc, est-ce que vous pourriez juste nous dire, cette compagnie existe depuis...
Alors, cette compagnie, elle existe, en fait, elle a eu une naissance un peu hasardeuse, mais disons que sa date de naissance officielle, c'est 2007-2008, avec la création du premier spectacle, qui est Uburois, d'Alfred Jarry. Donc, qui va fêter ses 10 ans, là, en février prochain, qui tourne toujours, et qui a été pour nous, un peu un geste fondateur, quoi, de...
Le choix, justement, de Jarry, qu'est-ce qui avait résonné chez vous, vibré dans cette pièce ?
Alors, le choix de Jarry, c'était d'abord trouver un texte. On avait d'abord besoin, on arrivait en Bretagne, donc on avait besoin d'une forme légère, qui puisse rencontrer tous les publics, jouer partout. Et donc on avait imaginé une petite forme comme un écran vivant, un castelet avec, plutôt que des marionnettes, des acteurs dedans. Et donc on avait l'idée de cette forme-là, il nous fallait un texte. Au départ, il avait été question un peu de classique, de Shakespeare et de... Voilà, on avait envie de quelque chose un peu épique, quoi, monumental. Et puis, il y a eu l'idée de Jarry, qui était super parce qu'elle racontait, la session au pouvoir d'un tyran. Il y a plein de choses dans Ubu qui faisaient extrêmement résonance avec l'actualité. Et puis, en plus de ça, il y avait chez Jarry, le côté potache. Il y avait aussi la possibilité d'être vraiment à un niveau épique et en même temps de bricoler avec des objets, des masques, des petites marionnettes, voilà, parce qu'il y avait ça déjà dans les premières mises en scène de Jarry, la présence des objets, des masques et des petites manipulations, quoi. Donc pour nous, c'était vraiment le bon texte et prétexte.
Est-ce que vous pourriez nous présenter tout simplement les autres créations de la compagnie, les différents auteurs, et puis est-ce qu'il y a aussi des créations écrites de la compagnie elle-même?
Oui. Alors déjà, ce que je peux vous dire, cher Mathieu, c'est que on a pris le parti, on a créé cette première petite, on appelle ça des petites formes citoyennes, parce qu'elles peuvent aller jouer chez les gens, dans les salons, les cuisines. Elles peuvent jouer dans les lycées, les bibliothèques. Voilà, elles n'ont pas besoin de lieux consacrés pour s'implanter. On peut jouer n'importe où. On a besoin de 4 mètres carrés, une prise de courant. Et... Donc, on a créé cette première petite forme citoyenne. Après, on s'est dit, voilà, il ne faut pas non plus qu'on néglige les théâtres, parce que c'est des beaux lieux et c'est des lieux importants. Donc, on va créer les spectacles en diptyque, c'est-à-dire qu'on va faire autour d'un même thème. On va créer une petite forme citoyenne, c'est-à-dire un spectacle décentralisable qu'on peut aller jouer chez les gens. Et puis, autour du même thème, on va aussi créer, dans le même élan, on va créer un spectacle plus théâtral pour les théâtres. Et donc, notre premier diptyque, ça a été sur l'immigration et le travail. Et on a créé donc deux spectacles. Une petite forme citoyenne qui s'appelle « Sans patrie », qui est un conte documentaire qui retrace... alors, pour la partie documentaire, qui retrace les événements à Montfort-sur-Meu en 2007... des Maliens qui travaillaient, Maliens sans papier, qui travaillaient à la Coperle, qui est un abattoir de porc, qui ont été expulsés par les premières vagues d'expulsion sous Sarkozy en 2007. Voilà, ils ont tous été expulsés à même matin, cette commune de Montfort-sur-Meu, qui est une petite commune proche de Rennes, s'est soulevée. Il y a eu un espèce de réveil citoyen comme ça de tout le monde pour faire régulariser les gars en question et crier une colère, quoi. Donc ça, c'est pour la partie documentaire. Et puis, il y a aussi une petite fiction dans ce spectacle qui raconte l'exil en pirogue de gens qui partent d'Afrique pour arriver en Espagne. Donc c'est un spectacle comme ça, un peu hybride, inspiré d'un fait divers et en même temps où il y a une petite fiction. Donc ça, c'est la petite forme citoyenne. Et puis, en parallèle, on a créé « Combat de nègres et de chiens » de Bernard-Marie Coltès. Voilà. Donc ça, c'était plutôt pour les théâtres. Et s'en est suivi un deuxième diptyque, quelques années plus tard, autour de la question de la démocratie culturelle et de la société du spectacle. On a créé une autre petite forme citoyenne qui s'appelle « Et la lumière fuit », qui est une sorte de conférence un peu déguisée qui se... Ça, c'est du théâtre, il y a des personnages, il y a du... Mais voilà, il y a aussi des auteurs, il y a des philosophes, il y a des textes des Lumières, il y a aussi beaucoup de choses d'un philosophe qui s'appelle Alain Brossa, qui a écrit sur la démocratie culturelle. Et donc voilà, c'est un espèce de pamphlet un peu sur ce qu'est notre démocratie culturelle, quoi. En gros, ça raconte que... On vit dans une société un peu obèse de culture, où tout est un peu mis sur le même plan, quoi. Et puis que plus il y a de culture, moins il y a de politique. Et que peut-être que notre démocratie culturelle, c'est un peu une illusion, quoi, ou en tout cas de liberté. C'est pas parce que la culture est accessible qu'on est libre. Et que peut-être que la culture, elle doit plus servir à reconvoquer nos désaccords et nos fondations et nos divisions plutôt que de uniquement de nous divertir. Et en parallèle de La Lumière Fuit, on a créé donc une forme théâtrale qui s'appelle La Partie Continue, qui est un texte de Jean-Michel Baudouin, un auteur français contemporain, et qui raconte, lui, l'après dictature au Chili et le vol d'enfants, les généraux de la dictature qui volaient des enfants à la maternité. Des enfants d'opposants et qui les élevaient comme leurs propres enfants. Et voilà, donc cette fille qui a été volée à la naissance est devenue une grande tennisman, est devenue le symbole un peu du renouveau du pays, juste au moment des lois d'amnistie. Et sa maman biologique se met en tête de prouver que c'est sa fille, sa propre fille. Donc s'ensuit une espèce de polar où elle... où elle va infiltrer la famille, se faire embaucher comme femme de chambre et récolter des indices pour prouver que c'est bien sa fille. Donc voilà, ça a été là. Et le petit dernier spectacle, qui est un spectacle qu'on a voulu spécialement pour les enfants, mais qui au final plaît à tout le monde, autour des fables de Nasreddin Hoxha, qui est un personnage quasi mythologique de la culture musulmane, et enfin de la culture arabe même au sens, même méditerranéen, parce qu'on la retrouve en Italie, en Grèce. Nasreddin, c'est un personnage qui, on ne sait pas s'il est fou, s'il est sage, et... Voilà, c'est des petites fables absurdes et philosophiques.
Dernière question. Est-ce que vous pourriez aussi nous expliquer, parce que je vois, je sais, je vois que aussi la compagnie du Puy qui parle a une intense activité de transmission, où vous vous situez dans dans l'idée d'une éducation populaire. Est-ce que vous pourriez nous parler justement de cette transmission qui se fait avec les jeunes, les moins jeunes, avec les publics qui sont intéressés et qui ne sont plus simplement que des spectateurs dans ce cas, j'imagine?
Ben oui, je vous disais tout à l'heure que pour nous c'était un vrai média vivant, quoi, le théâtre, comme outil à disposition des gens pour parler de leur monde, quoi, et de leur questionnement. Et quand je dis leur monde, hein, c'est pas que l'actualité sulfureuse, quoi, mais c'est aussi le théâtre raconte des choses universelles, quoi. C'est pas un média au sens tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est un média plus universel. Et du coup, cet outil-là, il est pour nous, il doit être à disposition de tous. Donc on se fait un grand plaisir, quoi, effectivement, d'organiser ou d'intervenir dans des stages, des ateliers auprès de lycéens, de collégiens, parfois même de jeunes enfants en primaire, des BTS, des amateurs, aussi des comédiens professionnels, hein, sur des stages pro. Et voilà, pour nous, on le fait vraiment, on le fait de façon très, comment dire, très sérieuse, quoi, parce que pour nous c'est aussi un baromètre de là où on en est, nous, quoi. Souvent c'est une façon aussi d'interroger. Pour nous c'est souvent des laboratoires aussi. On partage avec les gens des choses qui nous animent. On se dit tiens, on aimerait bien travailler là-dessus. C'est une façon de jeter un peu des pavés dans la mare, de voir comment on fait, quoi, comment on peut parler de ça. Et puis alors oui, bien sûr, c'est souvent utilisé, comme souvent on nous dit, est-ce que vous pouvez venir pour que nos jeunes ils soient plus à l'aise à l'oral, qu'ils sachent parler devant des gens. Alors bien sûr, le théâtre sert à ça en partie, hein, confiance en soi, mais pour nous c'est avant tout, vous parliez d'éducation populaire, pour nous c'est avant tout un moyen de transformation sociale, quoi, le théâtre. D'une part parce que c'est un média vivant, donc il nous permet de dire ce qu'on pense, de le dire devant des gens qui vont peut-être le recevoir, qui vont peut-être sentir quelque chose vibrer en eux, quelque chose va changer. Et puis c'est un outil politique, quoi. Le théâtre, il a toujours été, ça a toujours été une façon de critiquer le pouvoir et en même temps de divertir, hein. C'est pas pour ceux qui nous écoutent là, on peut avoir l'impression que tout ça est un peu un télo et sérieux, mais on laisse là beaucoup, nous on laisse beaucoup la part belle au divertissement aussi, parce que c'est important, et nos spectacles sont très ludiques, enjoués, drôles. Il y a beaucoup de comédie, même dans la partie continue, le vol des enfants en Amérique du Sud et tout, il y a toute une dimension de polar et de séries noires et tout ça qui rendent vraiment la chose ludique, et c'est important.
Mika, merci. Donc Mika, donc comédien, fondateur de la compagnie Le Puy qui parle. Merci pour cet entretien, donc à aider Bazouge.